Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudrey. Il y a quelques événements informés entre autres. Ministère de la main-d'œuvre de la République d'Indonésie exhorte le public à être sélectif en ce qui concerne les offres d'emploi. IRENA fournit une plateforme de financement pour aider l'Indonésie à mener sa transition énergétique. Indonésie mérite d'être une référence en matière de chirurgie d'implant cochléaire chez les enfants en Asie. Vétérinaire joue un rôle essentiel dans la promotion d'une alimentation nutritive gratuite. Copassus doit disposer d'un soft power adéquat. Ministre de l'Intérieur demande aux régions de renforcer la production de riz et d'éviter les importations. Et Patrick Cleaver, prêt à mener l'équipe nationale indonésienne à la Coupe du Monde 2026. Monsieur Jetar, voici le nouvel incomplet. Le ministère de la main-d'œuvre de la République d'Indonésie, Kemenaker, appelle le public à être plus prudent et sélectif dans la recherche d'informations relatives aux offres d'emploi, en particulier celles diffusées via les plateformes numériques. Le chef du bureau des relations publiques du ministère de la main-d'œuvre, Sunardi Manampiar Sinaga, a déclaré lundi que l'utilisation massive des plateformes numériques pour rechercher et proposer des emplois ouverts, des opportunités aux individus irresponsables de commettre des fraudes. Sunardi a déclaré que cela est également devenu une préoccupation particulière pour le ministre de la main-d'œuvre, Yasser Lee, afin que son parti fournisse activement des services de plainte du public concernant des fausses offres d'emploi et sensibilise activement le public à la vulnérabilité et au danger des fausses offres d'emploi. Il a également souligné l'importance de garantir la crédibilité de l'entreprise qui propose le poste. L'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA, fournit une plateforme de financement, à savoir le financement pour l'accélération de la transition énergétique, ETAF, pour aider à la transition énergétique des pays en développement, dont l'Indonésie. Le directeur général de l'IRENA, Francesco Lacamera, a déclaré à Antara après avoir assisté à l'ouverture de la 15e Assemblée générale de l'IRENA à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, dimanche, heure locale, que tous les projets de transition énergétique, tant privés que gouvernementaux, peuvent être soumis à la plateforme. La 15e Assemblée générale de l'IRENA vise à accélérer la transition énergétique mondiale dans un contexte d'incertitude causé par les conflits au Moyen-Orient et les conditions météorologiques extrêmes. Le Forum d'investissement pour l'Asie du Sud-Est s'est tenu en Indonésie lors du G20 avec 21 projets présentés lors de 29 séances de mise en relation entre financiers et propriétaires de projets. Le résultat est que le projet de centrale électrique au biogaz de 3MW à Riau et le projet d'énergie scolaire photovoltaïque de 30MW en Malaisie ont été adoptés avec succès. Le spécialiste ORL Harim Priyono a déclaré que l'Indonésie avait un grand potentiel pour devenir un centre de référence en matière de santé en Asie pour la chirurgie d'implants cochléaires chez les enfants. Harim a déclaré dimanche que les hôpitaux indonésiens, tant publics que privés, sont équipés d'une technologie médicale avancée reconnue internationalement, notamment par Singapour. Harim a estimé qu'avec le soutien du gouvernement et l'augmentation des capacités des thérapeutes, l'Indonésie est prête à devenir un centre d'excellence pour le traitement des troubles de l'oreille, en particulier dans l'installation d'implants cochléaires. Harim a ajouté que la capacité des médecins indonésiens à pratiquer une chirurgie d'implants cochléaires est très compétitive. Le vice-ministre de la Transmigration, Viva Yoga Mauladi, a déclaré que les vétérinaires ont un rôle important à jouer pour soutenir la durabilité du programme de repas nutritifs gratuits. Dans sa déclaration dimanche, Viva Yoga a déclaré que l'Indonésie ne peut pas continuer à dépendre des importations de viande d'autres pays pour répondre aux besoins nationaux en protéines animales, en particulier dans le cadre du programme de repas nutritifs gratuits. Le soutien de toutes les parties est donc nécessaire, y compris des vétérinaires. Cependant, Viva Yoga a déclaré que le nombre de vétérinaires en Indonésie est actuellement très minime et que le soutien de toutes les parties est donc nécessaire pour que le nombre idéal nécessaire puisse être atteint. Pour surmonter cela, a déclaré Viva Yoga, un certain nombre de factions à la Chambre des représentants du peuple indonésien se battent actuellement pour la ratification du projet de loi sur l'enseignement et les services vétérinaires. Le ministre de la Défense de la République d'Indonésie, Shafri Shamsuddin, a souligné l'importance pour le commandement des forces spéciales Kopassus d'être dotées de capacités humanitaires ou de soft power pour soutenir ces opérations militaires. Shafri a transmis cela après avoir fourni des informations au commandant de l'armée nationale indonésienne TNI et à Danjen Kopassus lors de l'examen du centre d'éducation et de formation des forces spéciales Pusdiklat Pasus à Batujajar, Bandung, dimanche. Shafri a également révélé que des installations d'entraînement au combat turbin seront construites et équipées d'installations de soutien humanitaire, de sorte que la formation ne se concentrera pas uniquement sur les opérations militaires, mais également sur les aspects humanitaires. Il a également souligné l'importance des installations de formation avec une approche multidimensionnelle compte tenu de la complexité des scénarios de combat modernes. Le ministre de l'Intérieur de la République d'Indonésie, Tito Karnavian, a demandé à toutes les régions d'Indonésie d'augmenter leur production de riz pour atteindre l'autosuffisance. Tito Karnavian a déclaré dimanche que les régions doivent renforcer la production avec le soutien des services agricoles et des plantations. Selon lui, en augmentant la production de riz, cela est conforme à l'objectif du gouvernement central de ne plus importer de riz d'ici 2025. Tito a également déclaré que le gouvernement central a encouragé la production à travers des programmes tels que le développement des plantations alimentaires. Cette étape devrait permettre de garantir que les besoins nationaux en riz soient satisfaits sans avoir recours aux importations. L'entraîneur de l'équipe nationale indonésienne, Patrick Cleaver, a déclaré qu'il appréciait la personne et qu'il était prêt à mener l'équipe Garuda vers la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Patrick Cleaver est arrivé après que Shin Tae-yong ait construit l'équipe pendant 5 ans. Et l'Indonésie est actuellement 3e place dans les qualifications avec 6 points en 6 matchs lors de sa séance d'introduction à Jakarta dimanche. Cleaver a souligné qu'il n'y avait pas d'autre choix que de gagner les 4 matchs restants. Patrick Cleaver est un attaquant néerlandais qui a joué pour plusieurs grands clubs européens tels que l'Ajax Amsterdam, l'AC Milan, Barcelone, le CF Valence, Newcastle United, le PSV Eindhoven et Lille. Mon cher Jodar, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire dont le titre est « Le grand rôle du secteur financier dans la lutte contre les changements climatiques ». Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est exprimé à l'ouverture de la 15e Assemblée générale de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA, à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis dimanche. La réunion à laquelle ont participé des délégués de 170 pays membres a eu pour thème accélérer la transition vers les énergies renouvelables, la voie à suivre. L'un des points clés du discours du secrétaire général de l'ONU a été la question des contraintes financières auxquelles sont confrontés les pays en développement. Selon Antonio Guterres, il est nécessaire d'accroître la capacité de prêt des banques multilatérales de développement, BMD, pour accélérer la transition énergétique des pays en développement. La 15e session de l'IRENA s'est concentrée sur le triplement de la capacité des énergies renouvelables en 2030 avec une ambition accrue dans les contributions déterminées au niveau national NDC 3.0. En outre, soutenir la transition et tirer parti des flux financiers innovants dans les pays en développement. Des défis de financement surgissent souvent lorsque le monde cherche à avancer. C'est une situation courante compte tenu de la qualité inégale des économies des pays du monde. C'est pourquoi la conférence sur le changement climatique COP29, qui s'est tenue en novembre dernier à Bakou en Azerbaïdjan, a concentré ses discussions sur les efforts visant à accroître le financement de la lutte contre le changement climatique. À cette occasion, la COP29 a réussi à convenir dans l'objectif de financement climatique de 300 milliards de dollars américains par an pour les pays en développement en 2025. Lors de la COP29, l'Indonésie a réussi à obtenir un accord de financement vert de 1,2 milliard d'euros, environ 20,18 billions de roupies. Les fonds proviennent de la crédit Anstalt voor Wederopbouw, KfW, pour le secteur de l'électricité. L'Indonésie elle-même devrait avoir besoin d'un financement vert pouvant atteindre 281 milliards de dollars américains, environ 265,3 billions de roupies. Même si les sources de financement peuvent provenir du secteur privé et de la coopération entre les pays, le financement existant est encore loin d'être idéal. Après avoir réussi à parvenir à un accord sur l'augmentation du financement vert lors de la COP29, il est tout naturel que le secrétaire général Guterres espère le même résultat lors de la 15e session de l'IRENA cette fois-ci. Car en réalité, financement vert et transition énergétique sont deux choses qui vont de pair et doivent aller de pair pour que les objectifs d'amélioration climatique puissent être atteints. Un autre élément qui mérite d'être pris en compte pour accélérer la transition énergétique est le soutien des réglementations étatiques sur le changement climatique et la conception de la transition énergétique des énergies fossiles vers les énergies propres. Cependant, l'aspect financier est une question très urgente et nécessite le soutien international, en particulier de la part des pays en développement. Le monde espère que la première conférence sur l'énergie en 2025 pourra produire de véritables résultats pour les efforts visant à maintenir la température de la planète et à améliorer le climat. Espérons que les résultats positifs de la COP29 en novembre dernier pourront être reproduits afin que le monde n'ait pas perdu espoir face aux défis climatiques qui sont de plus en plus ressentis par tous. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de l'histoire d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 13 janvier 1965, l'incident de Kanigoro à Kediri. L'incident de Kanigoro s'est produit le 13 janvier 1966 au pensionnat islamique Al-Jawhar, village de Kanigoro, district de Kras, régence de Kediri, Java orientale. L'incident a commencé à l'aube vers 4h30 heure locale, lorsque les masses de le front des paysans indonésiens, BTI, et la jeunesse du peuple, PR, affilié au Parti communiste indonésien PKI, ont pris d'assaut l'activité de formation mentale des étudiants islamiques indonésiens PII, à laquelle ont participé des centaines de personnes. Apportant armées d'armes tranchantes, les masses ont pris d'assaut la mosquée sans enlever leurs chaussures, piétinant et détruisant le Coran et arrêtant les participants et les membres du comité, dont Jawhari comme le leader, qui sera promené sur 7 km jusqu'au bureau de la police du secteur de Kras. Un mois après l'incident, la manifestation du PII et l'arrestation d'un certain nombre de partis, dont Anis Abiyoso, ont clos cette affaire. Chargé d'art, passons maintenant au 13 janvier 2001, lorsqu'un tremblement de terre a secoué le Salvador. Le 13 janvier 2001, un tremblement de terre majeur a frappé le Salvador. Précisément, dans le centre de San Salvador, au moins 944 personnes ont été tuées. 5 565 autres blessés. 108 261 maisons se sont effondrées, 169 692 autres maisons ont été endommagées et plus de 150 000 bâtiments endommagés. Environ 585 décès ont été causés par d'importants glissements de terrain à Santa Tecla et Comasahua. 8 personnes sont également mortes à Huetamala. L'épicentre a été situé à 100 km au sud-ouest de San Miguel, au Salvador, à une distance de 100 km, profondeur de 60 km. Des secousses sismiques auraient été ressenties de Mexico à la Colombie. Sergio Etard, nous terminons cette histoire d'aujourd'hui avec le 13 janvier 2012. Le navire de croisière italien Costa Concordia s'écoint en heurtant un récif de corail. Le 13 janvier 2012, le navire de croisière italien Costa Concordia a heurté un récif de corail et a chaviré à un angle de 80 degrés au large de l'île de Giglio en Italie. En conséquence, 4232 personnes ont été évacuées. Le navire en service depuis 2006 a connu un accident en raison d'une navigation trop proche de la côte. L'incident a fait 3 morts, 2 passagers et un membre d'équipage, 43 blessés et 17 disparus. Le capitaine du navire, Francesco Schettino, a été arrêté pour suspicion de négligence et de fuite du navire, tandis que les efforts de sauvetage se sont poursuivis pendant plus de 24 heures après l'incident. Cet incident est devenu l'une des catastrophes maritimes majeures impliquant un navire de croisière moderne avec d'énormes pertes et un projecteur sur procédure de sécurité des navires. Bon, changement d'heure, c'est tout. L'histoire d'aujourd'hui.
Voice of Indonesia.
Voilà la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre L'Indonésie et le Qatar coopèrent pour construire 1 million de maisons. Le gouvernement du président Prabowo a pour objectif de construire 3 millions d'unités de logements décents pour la communauté et est actuellement en train de construire le premier million de maisons. L'une des étapes pour atteindre cet objectif est d'établir une coopération avec le gouvernement qatari. L'Indonésie et le Qatar ont convenu de coopérer dans le cadre d'un programme de gouvernement à gouvernement ou J2G en signant un protocole d'accord concernant le financement de la construction d'un million de logements pour les communautés à faible revenu. La signature a été effectuée entre le ministre du logement et des zones résidentielles PKP Marwar Sirait et l'investisseur du Qatar Cheikh Abdul Aziz Al Thani en présence du président Prabowo Subianto au Palais Merdeka à Jakarta mercredi 8 janvier 2025. Cet accord fait du Qatar le premier investisseur étranger à participer à un programme visant à construire 3 millions de logements pour les personnes à faible revenu chaque année, l'un des programmes prioritaires du président Prabowo Subianto. Le ministre du Logement et des Zones Résidentielles, PKP, Marwar Sirait, a déclaré que le programme utiliserait des terres appartenant à diverses institutions et ministères, dont les actifs des entreprises publiques BUMN et la Direction générale des actifs de l'État, des EKN, de la ministère des Finances, Kemenkeu. Le secrétaire général de Pembangunan Perumahan, PPSA, Jokor Harjo a déclaré dans sa déclaration reçue à Jakarta samedi que Pembangunan Perumahan SA s'est engagé à soutenir les efforts de coopération en matière d'investissement du gouvernement indonésien avec le Qatar pour réaliser la construction d'un million de maisons. Pembangunan Perumahan Société Anonyme a alloué 26 hectares de terrain prêt à l'emploi pour soutenir le programme de coopération pour la construction d'un million de maisons entre l'Indonésie et le Qatar. Il a déclaré qu'à travers ce soutien, son parti s'engage à jouer un rôle actif dans la réalisation des travaux de construction pour le développement d'un million de maisons. Joko Raharjo a également expliqué que les terrains prêts à être utilisés étaient situés dans les régions de Jabodetabek, Jawa Occidental, Yogyakarta et Pekanbaru. Joko également déclaré que son parti était optimiste quant à sa capacité à être l'une des forces motrices de la réalisation du programme de 1 million de logements résultant de la coopération entre l'Indonésie et le Qatar. Pembangunan Perumahan Société Anonyme mettra également en œuvre des principes de bonne gouvernance et des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance ESG qui non seulement offrent des avantages concurrentiels à l'entreprise, mais soutient également le développement durable en Indonésie. C'est Juritor, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Masa depanku
chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Ces auditeurs, Raja Ampat dans la Papouasie du Sud-Ouest a toujours été une destination de rêve pour les touristes et l'un des endroits les plus emblématiques est l'île Wayang. Cette île est célébrée pour son groupe d'îles karstiques qui domine les eaux bleues claires, créant un spectacle incroyablement beau. Wayang est un symbole des merveilles naturelles de l'Indonésie et constitue une attraction pour les touristes étrangers. Chers auditeurs, si vous souhaitez visiter l'île de Wayang, votre voyage commence de Sorong jusqu'à Waisai, la capitale de Raja Ampat. Depuis Waisai, le voyage continue en louant un bateau pour plusieurs heures. À votre arrivée à Wayang, vous pourrez profiter de diverses activités intéressantes, telles que la plongée en apnée dans les eaux claires, la plongée parmi les riches récifs coralliens ou escalader la colline pour admirer la vue spectaculaire de l'archipel d'en haut. Chaque coin de Wayang est un paradis pour les amateurs de photographie et de beauté naturelle. Ces auditeurs, le Wayang est également un symbole de conservation marine. Dans le cadre de la zone de conservation de Raja Ampat, les touristes sont tenus de maintenir la propreté et la durabilité environnementale lors de leur visite. Avec son atmosphère tranquille et sa beauté époustouflante, le Wayang est la destination idéale pour échapper à l'agitation de la ville. Ces auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec comme titre « Le Wayang à Papouasie du Sud-Ouest ». Demain, nous nous retrouvons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di Karimun Jawa. Di Karimun Jawa signifie à Karimun Jawa. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est « Telinga saya berdengung ». Je répète, « Telinga saya berdengung » signifie « Mes oreilles bourdonnent ». Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Telinga saya berdengung. Telinga saya berdengung signifie mes oreilles bourdonnent. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Telinga saya. Telinga saya signifie mes oreilles. Berdengung. Berdengung signifie bourdonne. Sejak. Sejak signifie depuis. Di dalam. Di dalam signifie dans. Pesawat. Pesawat signifie l'avion. Telinga saya berdengung sejak dalam pesawat. Telinga saya berdengung sejak dalam pesawat. Mes oreilles bourdonnent depuis que je suis dans l'avion. Akhirnya. Akhirnya signifie enfin. Sampai juga. Sampai juga signifie arrivé. Di Karimun Jawa. Di Karimun Jawa signifie à Karimun Jawa. Maaf. Maaf signifie désolé. Tidak bisa. Tidak bisa signifie je ne peux pas. Mendengar. Mendengar signifie entendre. Dengan baik. Dengan baik signifie bien. Dans la conversation, vous entendez la phrase « Telinga saya berdengung sejak di dalam pesawat ». Telinga saya berdengung sejak di dalam pesawat. Signifie mes oreilles bourdonnent depuis que je suis dans l'avion. Dans cette phrase, il y a l'expression telinga saya berdengung. Je répète, telinga saya berdengung signifie mes oreilles bourdonnent. Le mot berdengung, berdengung, en français bourdonne, c'est-à-dire faire un bourdonnement, explique l'état de l'oreille qui revient à entendre un bourdonnement. Dans le contexte, Chris a informé Ayu de l'état de ses oreilles qui ne parvenait pas à bien entendre car elle bourdonnait. Écoutez un autre exemple d'expression pour informer de la présence d'un trouble dans un membre du corps. Berdebar. Berdebar signifie cœur batté. Jantung saya berdebar karena kaget. Jantung saya berdebar karena kaget signifie mon cœur batté a tout rompre à cause du choc. Menggigil. Menggigil signifie frissonner. Badan saya menggigil karena udaranya dingin. Badan saya menggigil karena udaranya dingin. Signifie mon corps frissonne parce que l'air est froid. Dans la province de Java Central se trouve le parc national de Karimun Jawa. La réserve naturelle comprend des îles et des plans d'eau. En 2020, l'UNESCO a désigné Karimun Jawa comme réserve mondiale de biosphère. Karimun Jawa possède un écosystème unique sous la forme d'une combinaison d'îles, de plaines, de montagnes et d'eau. Il y a des forêts de mangroves, de plages de sable blanc et des habitants sous-marins qui valent à visiter. Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir!
Voice of Indonesia.
And me, my bro, and we'll see that with you.
Good. ini. Traffic jam ngajak ribut malam ini. Jam 8 masih aja begini. Apalagi ku berangkat jam 5 sore tadi. Klap pip lampu merah, kedap-kedip bikin resah. Si doi pasti bakal marah-marah. Mulut komat kami doa penuh pasrah. Semoga bukan tanda akhir kisah.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Magazine Musical avec Maudry. Et cette fois, nous vous présentons une chanson croncheon intitulée Bunga Abadi, chantée par Ayu Sakti avec le groupe New Normal Croncheon. Chers amis, cette chanson créée et popularisée par Rio Clappy est sortie le 1er mars 2024. Cette chanson parle de la rencontre avec quelqu'un de spécial. Cette chanson est aussi une forme d'appréciation de Rio Clappy pour le miracle de l'amour et de gratitude pour la présence d'êtres chers. À travers la chanson Bunga Abadi, Rio Clappy souhaite rappeler aux auditeurs des véritables saints de l'amour et l'importance de toujours maintenir la relation qui existe actuellement. Bon, chers auditeurs, voici Ayu Sakti avec le groupe New Normal Croncheon vont chanter une chanson intitulée Bunga Abadi. Bonne écoute!
Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.